Sécure, épisode technique, je suis accompagné de Clément.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bien, et toi?
Très bien aussi. Cette fois-ci, on va poursuivre sur le Pentest Cloud. La deuxième phase qu'on va regarder, là, au-delà du fait d'initiation qu'on a fait dans le premier épisode, là, on va regarder l'accès initial, ce qui nous permet de prendre pied dans un cloud dans lequel on veut attaquer. Donc, je vais te laisser amorcer là-dessus, puis quelques grandes techniques, des choses très intéressantes à regarder là-dessus.
Absolument. Donc aujourd'hui, on va parler d'accès initial, initial access. Donc déjà, d'où ça vient un peu ce terme de accès initial, initial access? On parle souvent de TTP, de tactique, technique et procédure. Ça fait référence notamment à la matrice Mitre Attack. Notamment, la plus connue, c'est la Enterprise, qui est la première à être sortie, qui en fait tout simplement définit en fait le chemin, la chaîne d'une attaque et la chaîne d'une compromission pour une organisation, depuis en fait l'accès initial justement jusqu'à la fin, c'est exfiltration ou même l'impact, par exemple détonner un ransomware. Donc c'est vrai, quand on parle d'accès initial, en fin de compte, on a cette tactique qui est l'accès initial, la première grande catégorie. En dessous, il y a des techniques qui sont la manière en fait dont on va réaliser, et ensuite il y a les procédures qui sont vraiment un peu les outils, les scripts qu'on va lancer. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un peu de ça, de l'accès initial. On va se concentrer dans les environnements cloud. Moi, majoritairement, on va parler d'AWS, Azure et GCP. Hein. Et puis, quelles sont les techniques, en fin de compte, qu'on va utiliser pour l'accès initial dans ces environnements? Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai mentionné le Mitre Attack Enterprise. Aujourd'hui, on a quand même quelques ressources qui nous permettent justement d'aller un peu simuler et avoir un peu le cycle de vie d'une attaque dans un environnement cloud. Donc, le Mitre Attack a publié le Cloud Matrix, qui est en fait la matrice cloud, donc qui le but finalement c'est de présenter une attaque, le cycle d'une attaque dans un environnement cloud, GCP, Azure ou AWS, sans trop vraiment de distinction. C'est là aussi où c'est un peu un souci, parce que c'est un peu le début quand même de cette matrice d'attaque. Elle est complète, mais elle mérite encore d'être un petit peu, on va dire, améliorée. Mais c'est vrai qu'on a maintenant beaucoup d'initiatives qui ont été créées par la communauté ou même par les éditeurs. Notamment Microsoft, eux de leur côté, ont créé la Azure Threat Research Matrix, donc la Azure en fait recherche de menaces en fin de compte de Azure, qui est un peu vraiment spécifique à Azure, donc vachement intéressante. On a des détails un peu plus précis sur comment on peut faire du phishing, de l'accès initial, quelles sont les attaques, les évaluations de privilèges, mais propres à du Azure, donc c'est assez intéressant. Et puis après, on a aussi des membres de la communauté. Notamment, je pense à Lina Lo, qui est une chercheuse en sécurité, notamment spécialisée en Azure et Office 365, qui a elle aussi proposé une matrice d'attaque Azure AD, donc cette fois-ci vraiment spécifique sur Azure Active Directory, et Microsoft 365. C'est assez intéressant aussi, parce que c'est encore plus précis. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que on a une matrice pour le Mitre Attack Cloud qui est un peu à haut niveau, on dira. Après, on a Azure, Microsoft eux-mêmes qui ont fait une matrice. Puis après, on a encore des gens de la communauté qui ont fait des matrices eux-mêmes pour des un peu du SaaS, entre guillemets, Microsoft 365, ou des services bien précis dans Azure, par exemple. Donc, ça présente, en fait, moi, je trouve ce que ça décrit un peu, c'est qu'on a au niveau des risques, on comprend, mais finalement, quand on descend un peu jusqu'aux chercheurs qui publient des matrices comme ça, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une granularité. C'est en fonction de chaque service, limite, on peut avoir un peu une matrice de risque. Et en fonction de chaque service, on peut avoir un peu... on fait un accès initial dans Azure AD, il y a toutes ces techniques-là. Accès initial, par exemple, sur Azure Function, il y aurait toutes ces techniques-là. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités. Donc forcément, c'est aussi un peu effrayant, je dirais, dans un premier temps. Se dire, on a potentiellement toutes ces possibilités en accès initial. C'est un peu ce qu'on parle aujourd'hui.
Oui, et puis ça démontre à quel point les environnements cloud, les trois... Chacun sont déjà très... La complexité associée à ceux-ci, donc toute la capacité d'erreur de configuration associée à ça. C'est sûr que pour ceux qui se défendent, ces matrices nous permettent justement de mettre nos énergies aux bonnes places. Mais pour les attaquants, ça nous permet justement de moduler la nature des attaques de façon très, très spécialisée. Parce que c'est effectivement tous très spécialisés. Les environnements, même entre les trois clouds, sont très différent sur bien des aspects, puis justement, on va l'aborder un peu plus loin, sur le fait que la façon des approches sont très distinctes d'un à l'autre, même si de façon à très haut niveau, selon le matter, sont similaires, mais quand on descend dans le réel, non, sont plus similaires du tout, parce que la philosophie de conception n'est pas la même.
Absolument, absolument. Et on en parlera tout à l'heure, mais tout ça est vraiment la base un peu de cette philosophie de conception. C'est le modèle, les différents modèles IAM, Identity Access, Identity Authority, Identity Access, bon, IAM, qui gère un peu la gestion des permissions et des droits dans les environnements cloud. On y reviendra par la suite, mais c'est vraiment la base, en fait. Moi, en tout cas, j'estime, que c'est vraiment la base de toute l'exploitation qui est possible et de l'impact que peut avoir un attaquant. Puis tu parlais très justement des défenseurs un peu de la Blue Team qui est coté avec son cloud. Ce qui est intéressant, c'est que justement le Mitre a essayé de créer en fait aussi des matrices qui sont à destination des défenseurs, on va dire, des defenders. Enfin, ils appellent ça des defenders, mais c'est les défenseurs, ceux qui font la défense en fait des environnements cloud. Et ils ont sorti justement via le Mitre Ingenuity. Ils ont sorti en fin de compte des matrices de défense pour Azure, AWS et GCP pour chaque en fait cloud provider. Ils ont sorti justement des matrices de défense. C'est intéressant parce que du coup, ça nous permet d'avoir à chaque phase en fin de compte du attack cloud matrix. Ce qu'ils font en fait, le Mitre, c'est qu'ils mettent en fin de compte et ils associent une technique de défense ou une technique de logging et de monitoring qui est disponible dans chaque environnement. Donc c'est intéressant parce que quand on va sur ces liens, sur GCP, AWS ou Azure, ils ont chacun leur attaque matrice et en fin de compte, c'est plus une attaque matrice qu'à destination de la défense. C'est-à-dire, OK, initial access par exemple, tiens, j'ai 5 différentes techniques ou 6 différentes techniques. Ah bah tiens, le Mitre, ils me disent qu'il y a dans AWS telle technique de défense, tel monitoring, tel niveau de log qui est possible pour justement détecter ce genre de technique d'attaque. C'est assez intéressant. On mettrait éventuellement les liens en description, les différents, ils sont assez intéressants. Donc on parlait de tactique initial access et on a parlé de technique là justement. On a cité 5-6, qu'il y avait 5-6. C'est à peu près l'idée, c'est qu'il y a 5 grandes ou 6 grandes techniques en fin de compte d'accès initial, on va dire. Je vais les citer, puis après on va passer un peu à travers chacune. Donc là, il y en a une, c'est exploiter un composant ou une ressource cloud, exploiter une identité, faire du password spraying ou de la pulvérisation de mots de passe, hameçonner un utilisateur, donc du phishing, exploiter un device, exploiter une workstation, un laptop, et ensuite il y a tout ce qui est lié au supply chain attack un petit peu, ce qui s'appelle, le Mitre appelle ça le trusted relationship, c'est vraiment l'idée de se dire on a une compagnie qu'on trust, et éventuellement on a des liens de cross-account, par exemple dans la AWS, entre cette compagnie-là et la nôtre, et puis ils ont des permissions pour accéder à notre environnement cloud. Ça, c'est un peu les 5-6 grandes techniques, on va dire. Si on va un peu dans, par exemple, la première, qui est d'exploiter un composant, une vulnérabilité. Déjà, rapidement, c'est quoi un composant cloud, en fin de compte? Ça va être un peu tout. Ça peut être, si on prend une machine virtuelle, par exemple, on va appeler ça souvent une instance virtuelle. Ça peut être un EC2 dans AWS, ça peut être une virtual machine dans Azure ou un Cloud Engine dans GCP. Donc, on voit déjà comment c'est simple puisque les trois ont des noms différents pour décrire la même chose, une machine virtuelle dans le cloud. Hein. Donc, déjà, c'est le premier niveau de complexité. On se rend compte que déjà, pour décrire une instance virtuelle, on a trois mots différents. Mais c'est ça l'idée, en fin de compte. C'est qu'on va exploiter, en fait, quelque chose, on va dire, de physique, réellement, entre guillemets. On va exploiter, finalement, un composant pour avoir accès à l'environnement cloud. Et le composant, ça peut être, donc on l'a noté, une instance virtuelle, ça peut être un composant aussi qu'on appelle serverless, donc par exemple une fonction, donc encore pareil, 3 CSP, 3 définitions, fonction lambda pour du AWS, une Azure Function pour Azure, et une Cloud Function pour GCP, et c'est aussi un composant qu'on va pouvoir exploiter. L'exemple qu'on voit souvent quand on exploite ces composants, donc serverless ou instance virtuelle, à noter que ça peut être aussi être une base de données SQL exposée, hein, par exemple. Faut juste imaginer que c'est tout service finalement qu'on a normalement on-premise ou qu'on héberge notre DMZ qu'on expose publiquement est aussi déployable dans le cloud et on peut aussi lui attribuer une IP publique et n'importe qui pourra y accéder. Donc si on déploie une machine virtuelle dans le cloud, si on déploie un EC2 dans AWS et qu'on lui ouvre tous les ports à l'externe et qu'on déploie un Apache, il aura tous les ports ouverts et il aura l'Apache qui sera accessible. Ça change rien. C'est vraiment l'idée, quand on dit souvent, c'est vraiment le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça, hein. Le cloud, il n'y a rien de magique, c'est juste votre machine virtuelle, au lieu que vous la déployez chez vous, elle est déployée chez quelqu'un d'autre. Voilà, point. Si vous faites des erreurs, ce sera pareil. Si vous ouvrez la machine virtuelle à tout le monde, c'est pas AWS qui va aller vous dire attention, vous avez ouvert à tout le monde. Bien que maintenant, ils proposent des conseils et en fonction des services qu'on prend, ils peuvent créer des alertes et du monitoring là-dessus pour vous prévenir qu'il y a un danger. Mais si vous prenez le truc de base...
Meilleur exemple, c'est les buckets S3 là, dans lesquels Amazon a tellement eu mauvaise publicité qu'ils se sont tannés que les gens fassent n'importe quoi et ont mis énormément d'avertissements avant de l'ouvrir publiquement dans ce cas-ci, fait qu'ils évitent. Mais c'est un exemple qui n'est pas qui est représentatif du restant. Les autres mesures, on est effectivement laissé à nous-mêmes à bien des égards.
C'est ça. Le bucket S3, c'est vraiment le, entre guillemets, là où ils ont mis le plus de messages d'alerte et puis de petits drapeaux rouges à chaque fois. C'est rendu même compliqué limite pour ouvrir un bucket S3 public, alors qu'avant, bon, c'était open by design. Maintenant, c'est quand même, on a des messages d'alerte de partout, on nous demande des confirmations, des surconfirmations. On s'en rend compte que ça a été un souci, mais le bucket S3, je veux dire, c'est une ressource. AWS, par exemple, ils en ont des centaines différentes et ils en ont vraiment vraiment beaucoup qu'on peut exposer en externe. Attention, toutes les ressources, tous les services cloud ne sont pas exposables en externe, hein, c'est important aussi. Ça limite aussi la surface d'attaque, hein, évidemment, mais la majorité, enfin une grande partie, tout ce qui est virtual machine, les fonctions, les bases de données SQL ou autres, sont exposables en externe. Donc, en réellement, la première technique qu'on va utiliser, c'est d'exploiter un composant. Donc, on va faire de la reconnaissance assez classique, hein, comme quand on fait un test d'intrusion externe, comme quand on fait une reconnaissance externe. On va lister le DNS, les sous-domaines, on va lister les, ce qu'on appelle aussi les certificates de transparency list, les CRT. L'objectif, c'est de se dire, est-ce que dans tout ça, on va pouvoir obtenir des noms de domaines, peut-être Azure, ou est-ce qu'on va pouvoir obtenir des IP, par exemple, qui appartiennent au range Azure, AWS ou GCP. Parce que parfois, on va identifier, par exemple, que l'entreprise, elle a 30 IP en externe. Sur les 30, il y en a 28 qui sont des IP, je dirais classiques, entre guillemets, puis il y en a deux, elles appartiennent à des ranges Azure ou AWS. C'est intéressant parce que si ça appartient du range Azure ou AWS, c'est potentiellement un composant, Azure ou AWS. Et donc là, on va aller creuser, justement, voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a un EC2, une instance virtuelle, par exemple, ou est-ce qu'il y a une fonction lambda? Et là-dessus, maintenant, est-ce qu'il y a des vulnérabilités? Donc à chaque fois, ça fait des « est-ce qu'il y a ?»« Est-ce que c'est possible ?»« Est-ce qu'il y a quelque chose exposé ?» Mais c'est vraiment l'idée, en fin de compte, qu'on prend et la méthodologie qu'on prend. Quand on trouve ce genre de composants, un peu serverless ou ces instances ou ces bases de données, c'est directement comme si on exploitait un serveur normal, en fait, ou une machine virtuelle. Pour les Azure Functions, en général, on ne va pas se rendre compte forcément que c'est une Azure Function dans un premier temps. Ça va être peut-être un paramètre dans une URL qui va être ensuite redirigé vers une Azure Function ou vers une fonction lambda, AWS, peu importe. Donc, on ne va pas forcément s'en rendre compte. Là, on va s'en rendre compte, peut-être c'est après, si on arrive à avoir de l'exécution de commande. Parce que dans la majorité des cas, ce qu'on va chercher, par exemple, pour exploiter une fonction lambda, c'est d'exécuter des commandes système, donc ce qu'on appelle du OS Command Execution, où on va en général essayer, par exemple, si on prend une fonction lambda AWS, l'objectif réellement, c'est d'obtenir de l'exécution d'une commande système pour récupérer les variables d'environnement. Parce que dans les variables d'environnement d'une fonction lambda, par exemple, AWS, il y a les access tokens de la fonction lambda. Donc on va pouvoir après les récupérer et l'impersonnifier, en fait. Et là, on a notre premier, en fait, pied d'entrée, notre premier point d'accès, en fait, au sein de l'environnement cloud AWS. Évidemment, on aura aussi les permissions IAM définies à la fonction lambda. Si la fonction lambda n'a aucune permission, on n'aura rien. Si la fonction lambda peut lire tous les buckets S3, on pourra aller lire tous les buckets S3. C'est intéressant. Tu l'as mentionné tout à l'heure aussi, il y avait les storage. Les storage, c'est un peu se dire, est-ce qu'on a un storage qui est accessible publiquement? Est-ce qu'on peut lire de l'information, potentiellement retrouver des secrets? Souvent, on a l'exemple, tu sais, quand on passe des certifications ou des training cloud, il y a toujours un « bon, on a trouvé un storage bucket S3 exposé, puis il y a un access token dedans. » Ah oui, comme par hasard. C'est quand même assez rare. Ou il y a une clé privée SSH. Ah, waouh, génial. Non, ça, c'est quand même assez rare, faut être honnête. Oui, il y a eu beaucoup de brèches par rapport à des stockages accessibles, du S3 notamment. Ça a fait les news, ça a fait sensation. C'est quand même de moins en moins le cas. Mais en fait, ce qui est important, c'est de se dire, c'est aussi quelque chose qu'on va checker, c'est aussi un composant. En fait, c'est aussi une ressource, donc c'est un composant. On va tenter de l'exploiter, donc on va l'énumérer, les différents stockages qui est possible. Il y a plein de ressources pour l'énumérer, hein. Notamment, il y a le site un peu connu, Great at Warfare, qui va énumérer tous les buckets accessibles. Mais on a plein d'autres outils spécifiques, justement, sur du GCP, du S3 ou du Azure. Donc, on va énumérer ces stockages, voir si un peu il y a, ils sont lisibles, accessibles au niveau de la donnée, mais voir aussi éventuellement quelles permissions il y a. Parce que c'est assez intéressant, c'est que parfois, il peut y avoir des permissions en écriture sur un stockage. Et là, c'est assez intéressant parce que on peut, bah, en fait, on a plein de choix. Hein. On peut, par exemple, dire, nous, c'est arrivé le cas de figure, on avait un site web pour une organisation et on check un peu le code source, vraiment HTML du site web, et on voit qu'en fait, les ressources JavaScript du site web sont loadées à partir d'un bucket S3. On se dit, bon, ok, d'accord, bah, on va avoir le bucket S3 forcément qui appartient à l'organisation. Et le bucket S3 était ouvert, donc on se dit, ouais, bon, mais c'est du JS, c'est des images, du CSS, c'est pas intéressant. Sauf qu'on se rend compte finalement qu'on peut aussi écrire. On a le write privilege sur le bucket S3, puis on se dit, bah, c'est pas bien. Mais après, on pense pas forcément à très mal, on se dit, bon, c'est pas bien. Puis on se dit, bah, en fin de compte, attends, si il y a du JavaScript qui est utilisé, bah, en fin de compte, on fait ce qu'on veut maintenant avec le site web, en fait. Donc tout ce qui est XSS et autres, par exemple, redirection arbitraire, délivrer du malware, bah, c'est possible parce qu'on peut écrire dans le bucket S3 qui va être réutilisé par le site web directement. Donc voilà, c'est des bonnes capacités. Il y a aussi le cas de figure souvent qui est présenté où on a un bucket, enfin un storage cloud, désolé, je vais utiliser les termes qu'ils vont voulu utiliser, un GCP cloud storage, c'est le bucket S3 GCP en fait, hein. Ou par exemple, très souvent, dans la majorité des cas, en fin de compte, quand on crée une fonction dans GCP, une cloud function, comme une lambda dans AWS, le code en fait de la function, de la cloud function, il est storé en fait dans un stockage GCP. Dans un cloud storage. Donc, par exemple, si on a un droit d'écriture dans le cloud storage, ben, on va juste aller remplacer le code de la fonction, par exemple. Et on va pouvoir après récupérer les variables d'environnement ou le token associé. Et donc, ensuite, se faire passer pour la fonction. Donc, récupérer une identité, en fait. C'est ça l'idée, c'est de récupérer une identité, en fait, derrière. Toujours, toujours la même idée. Récupérer une identité et un accès. Ça, c'est un peu les parties composants, on va dire. Ce qu'on utilise beaucoup aussi, c'est tout ce qui est Google Docs, un peu Bing Docs et toutes ces recherches un peu spécifique avec des filtres sur, pour aller identifier des ressources cloud, parce que ce qu'on se rend compte, en fin de compte, c'est que chaque CSP, Azure, AWS ou GCP, ils ont un peu leur nommage bien précis. Et par exemple, les sites web Azure, ce sera les azurewebsite.net, par exemple, et ainsi de suite. Pareil pour les, pour les S3 buckets, AWS et autres. Et donc, en fin de compte, on peut aller assez facilement comme ça, essayer d'identifier des ressources cloud qui appartiennent à des entreprises. Sinon, du Google Docs ou du Bing Docs. J'en parle, c'est important parce que c'est vraiment des trucs assez intéressants. Puis même si vous, dans votre navigateur, vous tapez site.azurewebsite.net, bah en fait, vous allez trouver plein de sites qui sont gérés sur Azure Website. Ça veut dire que derrière, c'est un site web dans, qui est dans Azure, qui a une identité. Dans Azure, on va appeler ça une Managed Identity, ou alors ils vont avoir d'autres droits, mais en tout cas, ça va avoir un droit, cette application. Et si vous l'exploitez, s'il y a une vulnérabilité sur l'application, bah, ça va vous permettre d'avoir un premier accès, en fait, dans l'environnement cloud. Donc c'est vraiment l'idée, en fin de compte, faire la première technique hein, qu'on présente, c'est d'exploiter un composant, mais plus que ça, c'est d'exploiter souvent une vulnérabilité, en fait. Donc voilà. Notamment, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on parle très souvent aussi quand on parle d'exploiter un composant, notamment des instances virtuelles, de SSRF. On voit souvent cet exemple de la server-side request forgery, qui est une sorte de vulnérabilité dans laquelle on va, en fin de compte, utiliser l'application qu'on attaque comme un proxy pour aller chercher par exemple, bah, des choses en back-end. Donc, ça va être, par exemple, tiens, des serveurs qui sont non accessibles depuis Internet, mais on va se servir de l'application comme pivot, en fait, comme proxy. Dans l'environnement cloud, en général, on a une IP qui est très connue, c'est la 169.254, qui est l'IP de ce qu'on appelle, en fait, le metadata, enfin, le service de metadata. Et qui, en fait, très souvent, quand on va le requêter, va nous permettre d'aller récupérer des tokens, en fait, qui sont associés avec, par exemple, la machine virtuelle. Donc, c'est aussi des choses qu'on va cibler. Alors, maintenant, il y a plein de moyens de protection maintenant, hein, notamment dans GCP, il y a un header à absolument mettre, qui est le flavor Google, ou je sais plus comment il s'appelle, ce header, qui est un header qu'il faut que tu mettes, justement, et donc qui restreint, en fait, la possibilité d'aller chercher un token quand tu as une SSRF sur une instance virtuelle. Sur AWS, tu as le IMDS V2 aussi. Mais on voit très souvent plein d'entreprises qui déploient, par exemple, des instances virtuelles avec du IMDS dans AWS V1. Et en fait, ce qui fait que s'il y a une SSRF ou s'il y a une possibilité de récupérer le token, ben, on pourra le récupérer sans souci. Donc là, en fait, on se rend compte toujours du fait que, en fait, les entreprises ont déployé des environnements cloud sans forcément avoir le maximum d'expertise ou de compréhension de ce qu'elles déployaient ou de comment les hardennent, finalement, on va dire.
Ouais, c'est régulier qu'ils reprennent des stratégies qui étaient sur site, qui transportent de façon directe, sans modification, vers le cloud, ou même des systèmes ou des logiques de systèmes qui sont en code comme ça. Et un, ça coûte cher parce que c'est le cloud n'est pas fait pour ça, de un. Et de deux, on s'expose, comme tu le mentionnes, des problèmes de sécurité parce qu'on est dans un environnement complètement autre. Il y a des choses qui sont managed, qui ne sont pas normalement sur site, qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a là. Et ces choses managed-là, ben, donnent accès généralement à d'autres choses beaucoup plus intéressantes.
Mais c'est l'idée, en fait. C'est pas souvent, ça m'a déjà arrivé d'entendre, bah, on va bouger dans le cloud parce que c'est plus sécurisé. Oui, mais ça dépend comment vous le faites. Ça dépend si vous comprenez le cloud. Ça dépend si vous avez les ressources assignées, les gens qui ont de l'expertise. C'est pas forcément plus sécurisé. Si vous ne faites rien avec votre environnement cloud, c'est sécurisé, c'est sûr. Il n'y aura rien, vous ne faites rien. Mais c'est vraiment comme l'idée de se dire, un ordinateur, il est sécurisé à partir du moment donné où on le branche à Internet. C'est la même idée, en fin de compte. C'est entre guillemets, tu récupères un environnement cloud qui, by design, maintenant, devrait être sécurisé by design. Maintenant, tout ce que tu vas déployer, bah, c'est là que tu vas amener, en fin de compte, des défauts de configuration, c'est là que tu vas amener des vulnérabilités et autres. Ça reste un modèle de sécurité partagé. On n'en a pas dans l'épisode 1, mais ça reste un modèle de sécurité partagé. Le cloud provider, il est en charge de certaines responsabilités et toi, tu es en charge de tes responsabilités aussi. Donc, quand tu déploies des services, voilà, faut faire attention à ce que tu déploies. Ce qui était anormal, je pense, c'est vraiment à l'époque où tu créais ton bucket S3 et personne ne te disait, bah, il est public à tout le monde par défaut. Et là, je pense, là, on avait un souci réellement. Là, clairement, il y avait un souci. La deuxième technique dont on va parler, on a parlé d'exploiter un composant. La deuxième technique, c'est exploiter une identité. Une identité, je parle d'identité. En anglais, souvent, le terme utilisé, c'est principles. Mais bon, on va parler d'identité. C'est réellement, en fait, simplement trouver des credentials, trouver des access tokens, trouver des private keys. Là, on va pouvoir soit aller checker tout ce qui est leak credentials, par exemple, si on a des credentials qu'on leakait, qu'on pourrait utiliser dans les environnements cloud, par exemple, pour se connecter, sur Azure Portal, par exemple, ou GCP console, ou peu importe. C'est aussi aller checker tout ce qui est éventuellement access token qui aurait pu fuiter. Très souvent, on a l'exemple de... Bah, on va faire un git commit, un git push, et puis on envoie, en fin de compte, bah, notre access token en même temps qu'on envoie notre code. Y a beaucoup d'outils qui permettent de checker ça. Moi, mon préféré, mais après, il y en a plein, c'est TrueFollowHog, qui est vraiment un bon outil qui va aller un peu utiliser de la regex et aussi aller analyser l'entropie, en fait, des chaînes de caractères pour te dire si, bah, ça, par exemple, il y a beaucoup d'entropie. Peut-être que c'est une clé privée. Mais après, on a GitLeaks, GitSecret, GitRob, TokenHunter, on a plein d'autres outils qui, justement, vont aller, en fin de compte, prendre en entrée, en paramètre, en fait, tout simplement, des repositories GitHub ou des repositories autres. Mais toutes, en fin de compte, repositories de code, par exemple, tu vas leur donner et ils vont passer à travers, justement, pour aller checker soit des regex, soit par des regex, hein, simples, par exemple, dans AWS. Pour ceux qui ont fait un peu de pentest AWS ou qui ont utilisé AWS, on sait par exemple que des access tokens, par exemple, commencent toujours par A, K, I, A ou A, S, I, A, en fonction si c'est un service ou des choses comme ça. Donc on sait qu'on peut aller checker par exemple ce début de chaîne de caractères pour savoir s'il est présent. Ça veut peut-être dire qu'on a un access token qui est valable. C'est pareil pour Azure, pour GCP, la même logique. Hein. C'est une sorte d'access token derrière. Donc ça, c'est vraiment la deuxième technique qu'on va faire. Ça allait essayer de checker, d'exploiter une identité, trouver des éventuels credentials. Ce qu'on se rend compte, c'est que une entreprise, si elle a fait les choses à peu près correctement, la première technique d'attaque qui est d'exploiter un composant et la deuxième qui est d'exploiter une identité, on va se rendre compte qu'en fin de compte, si c'est fait correctement, bah, on va pas faire grand chose en tant qu'attaquant. Hein? Si elle a pas pushé des commits sur GitHub avec des access tokens ou si elle a pas déployé une VM vulnérable ou un stockage ouvert à tout le monde, on n'a pas grand-chose en tant qu'attaquant. C'est pour ça qu'il y a d'autres techniques et qu'on y vient. Mais ce que je veux dire, ce qui est important aussi, je voudrais revenir juste à la technique numéro 2, qui est tout ce qui est repo Git. Parce que souvent, c'est un peu l'idée, on envoie un nouveau code, on se dit « Oh mince, j'ai envoyé un access token, ah, bah, je refais un commit et je refais un push ». Je suis correct, c'est bon. J'ai écrasé, quoi. Oui, enfin bon, la base de GitHub, c'est les commits, hein, c'est vraiment les versions, entre guillemets. Donc, à chaque version que vous avez poussée, il y aura l'historique. Et là, il faut vraiment aller chercher le commit, le supprimer. C'est beaucoup plus long, il y a des gens qui ignorent. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des outils aujourd'hui qui monitorent en direct hein, tous les commits qui sont envoyés pour essayer de récupérer en fait le maximum de commits. C'est-à-dire que même si vous, de votre côté, vous vous dites « Ah oh, bah c'est bon, je l'ai supprimé 10 minutes après mon commit. » Et qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas été récupéré entre-temps? Bah rien, justement. Rien. Donc, c'est assez intéressant.
Tout ce qui est sur Internet est permanent, donc
c'est exactement
c'est
ça.
Aussi valide dans nos vies privées que dans ce genre de choses-là aussi, que si on fait une erreur, l'erreur devient nécessairement publique et éternelle.
C'est ça. C'est pour ça que souvent, on a des solutions qu'on va implémenter dans le pipeline un peu CI/CD, c'est d'avant de pusher le code, justement, on a de la vérification en amont, justement, qui va se faire dans le pipeline en de développement, où on va se dire, bah, avant de pusher notre code, on va aller vérifier qu'il n'y a pas une access token qui est laissée, on va aller vérifier qu'il n'y a pas des credentials hardcodés qui sont laissés, et ainsi de suite dans le code, avant de pusher. Sympa. Ça, c'est important. Après, toutes les entreprises ne font pas ça. On va être aussi honnête. La troisième technique qu'on peut utiliser pour obtenir un accès initial dans le cloud, c'est une technique qu'on utilise un peu tout le temps en Red Team, mais sur différents aspects, c'est le password spraying, donc la pulvérisation de mots de passe, qui finalement revient un peu à exploiter une identité. Parce que derrière, le but, c'est d'obtenir un compte utilisateur, dans la majorité des cas. Mais c'est vraiment d'aller... en fait, c'est un peu à l'inverse du brute force où on a un utilisateur et 10 000 mots de passe. Là, on va avoir 10 000 utilisateurs et 3-4 mots de passe. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser des mots de passe qui potentiellement vont matcher par rapport à l'entreprise, au contexte de l'entreprise, au nom de l'entreprise, à son identité, sur une grosse liste d'utilisateurs. L'idée, c'est de ne pas bloquer forcément les comptes, parce que si on est sur du Azure AD, par exemple, il y a très certainement de la synchronisation avec le AD on-premise. Donc, on veut éviter d'aller taper les 5 fail authentication et de bloquer tous les comptes. Parce que là, niveau steals, c'est raté. Mais surtout, c'est qu'on ne veut pas bloquer le client non plus. En général, on va quand même faire password spraying, on va faire une, deux tentatives, puis on va faire 30, 40, 45 minutes de pause, voire une heure, puis on va relancer ensuite. Ce qui fait que c'est l'attaque qui prend du temps. Donc là, réellement, le requis, hein, on dira, c'est le temps. Techniquement, on devrait pouvoir y arriver à bout d'un moment donné. Oui, certes, tout dépend de combien de temps on a. Là, pour l'attaquant, c'est pareil. Et il faut savoir, enfin, je pense qu'on le sait maintenant, mais l'attaquant, plus de temps, plus d'efforts il a à mettre, peut-être comme on l'entend, il va rester sur la cible parce qu'il va passer à autre chose. Parce qu'il y aura des win-win ailleurs beaucoup plus simples, donc il va passer sur autre chose. Donc c'est vraiment de ralentir. Mais comment on va faire pour faire du password spraying? Déjà, on va créer une liste d'utilisateurs. Donc en général, LinkedIn, c'est notre meilleur ami pour ça, on va être honnête. On crée une belle liste d'utilisateurs avec LinkedIn. On va ensuite les énumérer pour savoir si les users sont valides. Donc notamment, par exemple, sur Azure. Azure, Microsoft n'estime pas en rendre compte que l'énumération d'utilisateurs, parce que si vous ne le savez pas, hein, je vous le dis, hein, mais l'énumération d'utilisateurs en rendre compte sur Azure est possible. Et cette vulnérabilité qu'on va souvent reporter dans les pentests web en disant bah, on peut énumérer les utilisateurs, bah, finalement, dans Azure ou Office 365, elle est possible. On peut savoir si un user est valide ou pas. Ça, Azure, Microsoft ne considère pas que c'est une vulnérabilité. Ce qui fait que, bah, en tant qu'attaquant, c'est assez intéressant parce qu'on crée un utilisateur potentiellement qui est un peu brut, où il y a des erreurs, on le sait, mais on va pouvoir, grâce à Azure, merci, aller énumérer les users qui sont valides. Donc on fait ça quand même en prenant quelques mesures hein, de précaution, entre guillemets, on va dire. Donc l'idée, c'est d'aller proxifier ses requêtes déjà. On ne veut pas montrer à Microsoft qu'avec une seule IP, on a checké 10 000 utilisateurs parce qu'on va très vite être bloqué ou limité, ce qui est quand même bien. Donc, ce qu'on fait en général, on utilise un outil qu'on appelle FireProxy qui se base en fin de compte sur une API Gateway dans AWS qui fait qu'en fait, à chaque requête qu'on va faire, en fait, on va popper une nouvelle IP. En fait, tout simplement, on va utiliser une nouvelle IP pour chaque requête. Évidemment, bon, au niveau Azure, Microsoft sont quand même pas mal améliorés maintenant et arrive à quand même le détecter au bout d'un certain moment, là où avant il n'y avait vraiment pas de détection. Là, ça nous est arrivé, nous, par exemple, qu'on nous dise, par exemple, user valide, alors qu'on savait que le user n'était pas valide. Au bout de 2-3 000 tentatives, on avait user valide alors que le user n'était pas valide. Et en fait, On ne sait pas pourquoi, évidemment, et heureusement qu'on ne sait pas pourquoi. C'est un peu la sauce, la recette magique de Microsoft, mais c'est le but, hein. C'est de laisser un peu d'obscurité là-dedans. Mais c'est très certainement parce qu'on utilise à un moment donné aussi une AWS API Gateway et qu'ils doivent identifier que même si on utilise des IP différentes, ça provient d'un rang de l'AWS. Et donc, ils doivent mettre des limitations par rapport à l'organisation de l'utilisateur, par exemple, vis-à-vis des rangs AWS et répondre de manière différente. Il y a un blog post sur Microsoft qui en parle, de l'équipe Threat Research qui travaille chez Microsoft, justement. Il y a un blog post où ils en parlent, justement, où ils parlent de la manière dont ils essayent d'améliorer un peu leur algorithme avec du machine learning et autres, qui est assez intéressant, évidemment très large, très haut niveau, hein. On n'a pas de détails, et heureusement. Mais l'idée, voilà, c'est d'aller lister les utilisateurs, créer une liste d'utilisateurs, énumérer s'ils sont valides. Une fois qu'on a des utilisateurs qui sont valides, une liste qui est valide, qui est plus ou moins propre, là, on va faire notre passport spraying avec, par exemple, une base de 10-15 mots de passe qu'on va faire sur plusieurs jours. Et toujours pareil, hein, quand on soumet la requête d'authentification, on repasse encore par notre API Gateway AWS. Ça peut être une API Gateway dans notre service, hein, ça peut être du GCP ou autre. Je prends AWS API Gateway parce que c'est ce qu'on utilise, par exemple, nous. Mais c'est un peu l'idée. Donc ça, ça va permettre de potentiellement pouvoir trouver un compte. Maintenant, on trouve un compte. C'est bien, mais il y a plein de limitations qui sont possibles. Il peut y avoir du Conditional Access Policy, on y reviendra après. Il peut y avoir du multifacteur, on va revenir un petit peu après. Donc, on est quand même limité. Si l'entreprise a fait les choses correctement, il y a du multifacteur, normalement, et on est limité, on sera bloqué à ce moment-là. On peut donc maintenant se dire, quatrième technique, hein, on va hameçonner l'utilisateur, faire du phishing, pour peut-être se dire, on va... comme ça, récupérer l'identifiant, le username en le fichant. On peut faire un phishing classique. Hein. Puis on va aussi faire un phishing de son two-factor. En fonction du two-factor qu'il utilise, évidemment. Hein. S'il utilise du YubiKey, ce sera bien plus compliqué. Mais s'il utilise du push, par exemple, ou du SMS, ça va être bien plus simple. On va simplement l'hameçonner, envoyer un email, lui demander son username, son mot de passe, et en même temps lui demander son MFA. Vu qu'on y est, on en demande les deux. On va relier le tout. Et récupérer le token et récupérer l'accès, le cookie en fait d'authentification de l'utilisateur et pouvoir s'authentifier. Donc ça, c'est du phishing. L'outil qu'on utilise en général, c'est Evil Nginx, qui est l'outil qui permet de faire du phishing un peu de multifacteur. Ça marche bien. Ça, c'est le phishing classique, on dira, pour hameçonner un utilisateur. À savoir que ça marche aussi comme pour obtenir un accès sur un VPN ou autre. Hein. C'est vraiment, on fiche un utilisateur. Maintenant, ce qui est intéressant dans les environnements cloud, en fait, c'est qu'on peut faire du phishing de manière un peu différente. On peut faire du phishing sans forcément aller demander des credentials à l'utilisateur. Et c'est ça qui est intéressant parce que je dis pas que l'utilisateur aujourd'hui est très awareness ou j'ai un 2FA et je peux me faire phisher mon 2FA. Déjà, rien que quand on leur explique qu'on peut ficher de 2FA et qu'on peut le récupérer, ils sont en mode, waouh, bizarre. Mais, c'est quand même plus suspect de demander un credential à un moment donné, rediriger vers une page, potentiellement la page va être blacklistée à un moment donné, faut réserver un nom de domaine, faut que le nom de domaine il soit allowed dans le proxy d'entreprise, il y a plein de prérequis. Donc ce qu'on fait parfois, pour cibler de l'environnement cloud, en fin de compte, et pour obtenir un accès initial, c'est toujours d'hameçonner un utilisateur, toujours de faire du phishing, quatrième technique, mais c'est d'utiliser différentes techniques comme le device code authentication, donc le device code phishing en fait qu'on appelle, ou le illicit consent grant. On va parler des deux, mais ce qu'il faut retenir en fin de compte, c'est que ces deux techniques de phishing en fait se basent derrière sur du OAuth, sur le protocole OAuth, qui est un protocole d'autorisation. Attention, je précise bien autorisation. C'est pas d'authentication. C'est pas d'authentification. C'est important. Pour l'authentification, c'est du OpenID, mais on va utiliser du OAuth pour l'autorisation. Et réellement, comment ça se passe en fin de compte, si on prend le premier exemple, le device code phishing. Le device code phishing, en fait, ça a été créé au tout départ pour tout ce qui est smart TV, IoT. En fait, c'était des devices où saisir un mot de passe, c'est compliqué. Souvent parce que on a la petite télécommande, super, on peut rien faire, ou c'est très long, ou souvent parce que c'est compliqué. Donc, on a donné la possibilité à l'utilisateur d'utiliser un code, en fin de compte, pour s'authentifier. Device code phishing. Et en fait, ce qu'on va faire en tant qu'attaquant, nous, c'est qu'on va juste réutiliser cette fonctionnalité, générer un code, via les API Microsoft, par exemple, mais à savoir que le device code phishing marche pour AWS et GCP. Hein. On va parler de Microsoft là, mais ça marche pour AWS et GCP. D'ailleurs, c'est du OAuth. Ils l'ont tous implémenté et ils ont tous permis la possibilité de lier des devices dans son environnement GCP ou AWS ou Azure. Donc, on va simplement générer via le provider qu'on veut, via des calls d'API, tout le monde peut le faire hein, sans authentification, un device code. On va envoyer ce device code à l'utilisateur via un mail. Donc, à ce moment-là, le moment où on va, entre guillemets, pouvoir se faire flaguer, pouvoir se faire détecter, c'est vraiment le moment où on va envoyer l'email. Il faut un nom de domaine. Nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend un nom de domaine sur Azure, on prend un .on.microsoft.com, comme ça, on est plutôt sur sa passe. On envoie le mail aussi depuis Azure. On utilise, par exemple, Cloud Shell dans Azure pour envoyer le mail depuis Azure. Comme ça, l'email, il part depuis les IP Azure. Donc, on fait quelques trucs comme ça pour essayer de se dire, on arrive avec quelque chose de plutôt whitelisté. Mais quand on arrive dans la boîte de l'utilisateur, en fin de compte, après, il faut trouver le prétexte. C'est un phishing. Trouver un prétexte, trouver le truc qui va faire que l'utilisateur va se dire j'ai envie de cliquer. Donc, en général, nous, ce qu'on lui propose, c'est on a déjà fait la blague, le troisième facteur d'authentification qu'il faut qu'il rentre. Donc, on lui dit, on renforce la sécurité. Maintenant, il faut que vous utilisiez ce troisième facteur pour authentifier votre compte. Voici le code. Veuillez le rentrer à l'URL suivante. En fait, l'URL qu'on donne, c'est juste une URL qui est valide. C'est une URL Microsoft. C'est microsoft.com/device login. Qui est une URL Microsoft. Donc l'utilisateur, quand il clique, il est sur une page Microsoft, sur un domaine Microsoft. Il n'y a rien d'illégitime. La seule chose qui est légitime, en fin de compte, c'est notre mail. Et c'est qu'au moment donné où il prend ce code qu'on lui donne, qui est 9 caractères, et qu'il le colle dans l'URL Microsoft qu'on lui a donné, là, dans le formulaire, il a juste à faire ça, hein, pas d'authentification. Dès qu'il le colle, on récupère, en fin de compte, ses droits. On récupère ses droits, évidemment, avec certaines permissions, on va y revenir. Lié au protocole OAuth. Mais c'est ça l'idée du device code phishing. Donc le prétexte qu'on envoie par mail, voilà, ça peut être n'importe quoi. On avait aussi fait le cas de figure de dire à l'utilisateur, attention, il faut que vous vous authentifiez, il faut que vous validiez que c'est bien vous, on a eu des problèmes de sécurité, veuillez valider votre identité en vous authentifiant via ce code unique, à usage unique. Le code est en effet à usage unique, en effet, ça, on ne ment pas là-dessus. Il clique sur l'URL, il a un formulaire avec un champ, il y a marqué Microsoft Device Code, il rentre le code, et nous, de notre côté, on récupère l'Access Token. On récupère donc un Access Token. L'Access Token, c'est le terme défini un peu dans le protocole OAuth. Mais vu que c'est du OAuth, en fait, derrière, on a, je disais tout à l'heure, on récupère les droits de l'utilisateur. C'est vrai et pas vrai. En fait, on récupère une partie des droits de l'utilisateur. On va récupérer ce qu'on appelle dans le protocole OAuth un scope. Et en fait, ce scope qu'on récupère, c'est réellement ce qui va déterminer qu'est-ce qu'on peut faire. C'est par exemple, le scope, ça va être read user profile, read Azure AD all user. C'est vraiment, on va savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce scope-là. Et en général, c'est dans le token OAuth, on a le scope qui est défini. Donc l'access token, c'est pas parce qu'on a récupéré via un device code phishing, par exemple, le token d'un admin dans Azure, qu'on a forcément les droits admin directement. On va avoir les droits qui sont définis par Microsoft. C'est-à-dire que Microsoft, quand ils ont créé la fonctionnalité device code, pour authentifier les télés, par exemple, eh bien, ils ont dit, on va restreindre le scope OAuth, par exemple, pour les télés, seulement à la possibilité de lire les informations de l'utilisateur, de lire l'organisation, par exemple, et les informations de l'organisation. Ce qui est quand même assez intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut récupérer potentiellement tous les utilisateurs de l'organisation, les noms, potentiellement les usernames, les comptes de service et tout. C'est quand même intéressant, parce qu'on peut se dire, si on veut refaire du phishing ou renvoyer d'autres phishing à d'autres personnes, ça va être intéressant, ou faire un password spring avec une utilisateur plus grosse. Ça, c'est pour le device code, tout est lié au OAuth. Par exemple, sur GCP, quand on fait du device code sur GCP, c'est très limité. C'est très limité. On peut y aller voir, les scopes sont publics sur la documentation GCP. On tape device authentication OAuth GCP, et tu vas voir, en fin de compte, un peu les scopes que tu as, mais ils sont vraiment très restreints. Donc, on ne peut pas non plus tout faire. Donc c'est du hameçonnage, toujours du phishing, avec des limitations. C'est important. Le illicit consent grant, la deuxième forme de phishing, c'est la même chose. C'est à peu près la même chose. C'est toujours du OAuth. Il y aura toujours derrière des access tokens qu'on va demander. Sauf que c'est différent. Dans ces cas-là, on va créer une application, en fait. Et en fin de compte, on va demander le consentement de l'utilisateur. Et c'est toujours pareil, on utilise du service légitime. C'est-à-dire qu'on va utiliser, par exemple, dans Azure, des Enterprise Applications. On va créer notre propre Enterprise Application dans notre propre Azure environnement de l'attaquant. Et on va l'envoyer à l'utilisateur en disant, tiens, t'as accès à la nouvelle application RH, par exemple. Ou t'as accès à la nouvelle application de gestion de la paye. L'utilisateur, il dit, super, cool. il va avoir le pop-up Microsoft, là, disant « Veux-tu consentir l'accès à l'application ?» Vraiment, une page Microsoft sur une URL Microsoft, tout est légitime. Bon, à part l'application, qui est malicieuse. Et l'application, c'est comme quand vous téléchargez une application sur Android ou sur iPhone. On vous demande des droits. Bah, c'est pareil. On va demander une liste de droits, qui est en fait la liste en fait, du scope et des permissions aux hôtes, en fait. Et en fonction du droit qu'on demande via l'application, eh bien, nous, après, en tant qu'attaquant, on impersonnifie notre application et on récupère les droits de l'utilisateur. Dès lors que l'utilisateur clique sur consent, je crois que même c'est accept, c'est pas vraiment consent, mais bon. Dès qu'il clique sur accept, on récupère les droits qu'on a demandés. Là, c'est intéressant parce que là, dans ces cas de figure-là de illicit consent grant, pareil, AWS, GCP, Azure, on peut le faire. En fait, on va pouvoir setter les permissions qu'on veut. Donc, on va pouvoir dire, je veux avoir accès, par exemple, après, je vais pouvoir faire tel call d'API. En fait, ça veut dire, je vais pouvoir, dans mon access token OAuth, avoir tel scope qui est défini. Donc, on se dit, je vais avoir accès à tel call d'API, par exemple, pour, par exemple, écrire sur OneDrive ou lire tous les fichiers sur OneDrive. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, avec cette technique-là, si on fiche un admin, eh bien, lui, il aura très souvent, parce qu'il y a des limitations, on va y revenir, mais si on arrive à ficher un admin ou quelqu'un qui a des droits assez importants, on va avoir des droits assez importants en fonction de ce qu'on demande. Donc là, c'est intéressant parce qu'on est en capacité de définir un peu ce qu'on veut. Évidemment, si on demande, par exemple, accès à toute l'organisation, OneDrive, Virtual Machine et tout machin, et qu'on envoie à un user simple, bon, il pourra jamais dire j'accepte parce qu'en fait, techniquement, son profil, il n'a pas le droit. Mais voilà, c'est intéressant. Donc on peut faire potentiellement les deux. On se dit, on fait un device code, phishing, on récupère la liste des utilisateurs avec des permissions très simples, vraiment, de lecture de l'annuaire Azure AD, on récupère les utilisateurs, les groupes, tiens, Global Admin, j'ai tel utilisateur, ok, je vais faire une fausse application Azure, et je vais l'envoyer à ces gars-là qui sont qui sont Global Admin pour le Azure, par exemple, qui ont le rôle Global Admin, ou qui ont le groupe Application Admin, par exemple. Et je vais leur envoyer. Je sais forcément que je vais récupérer des droits intéressants, là. Et je vais mettre en permission sur mon Enterprise Application des permissions bien spécifiques pour aller plus loin. Ça, c'est un peu la quatrième technique. Hameçonnage via.
Heureusement ou malheureusement très efficace ce genre de technique-là. Puis juste pour le volet Azure M365, parce que je l'ai beaucoup plus vu celui-là. Les utilisateurs vont cliquer dès qu'on leur demande une permission d'accéder, ils vont cliquer, c'est les deux yeux fermés. Là. Mm-hmm. Ils vont là 9 fois sur 10, c'est sûr qu'ils cliquent. Les admins moins. Ouais. Mais ça dépend des organisations et des cultures. J'ai vu des organisations, les admins ne se posaient pas tant de questions que ça avant d'arriver à ce genre de choses-là. Surtout si le phishing est bien fait, ça passe comme dans du bar.
C'est ça. Et nous, on l'avait fait avec les ressources humaines, par exemple, au moment de la revue de performance. Et en fin de compte, on disait à tout le monde, donc là, vous avez accès à la nouvelle application pour remplir votre bilan de performance et bilan d'objectifs pour l'année. Donc, ça tombait à point nommé, en plus, au niveau du prétexte. Et on a eu beaucoup de clics et voilà. Donc, il y a des limites hein, aussi à ces choses-là. On va y revenir à la fin sur la partie limitation, en fin de compte. On en a déjà parlé. Il y a un scope OAuth, par exemple, qui est déjà une limitation par lui-même. Cinquième technique, c'est d'exploiter un device. Exploiter un device, c'est réellement ou un laptop ou un ordinateur, une workstation. Le but réel, ça va être d'obtenir un access token qui est potentiellement sauvé au niveau du profil utilisateur. Il y a différents chemins dans lesquels sont sauvegardés les credentials de l'utilisateur pour l'environnement cloud. Donc, ça va être soit sous forme d'access token, soit sous forme de cookie même, par exemple. Et ça va être assez intéressant parce que dans le cas d'un access token, c'est intéressant, mais dans le cas d'un cookie, c'est encore plus intéressant. Si on prend le cas, par exemple, d'une machine Windows, un laptop Windows, l'utilisateur, en fait, qui a une machine Windows, va avoir dans son /user/build/.appdata/local, bon, bref. Dans ces fichiers-là, en fin de compte, il a ses cookies qui sont enregistrés. Les cookies qui sont enregistrés pour son navigateur sont protégés par ce qu'on appelle dans Windows la DPAPI. C'est un peu c'est l'API, en fait, qu'a créé Microsoft. C'est Data Protect API. C'est l'API, en fait, qu'a créé Microsoft pour protéger, en fait, les secrets by design dans Microsoft. L'objectif, c'était Microsoft, ils se sont dit, on va créer une API pour que les développeurs, ils aient pas à chaque fois eux-mêmes à développer leur propre API non sécuritaire, entre guillemets, pour protéger les secrets. Donc, ils ont dit, on développe la DPAPI. Il y a deux calls bien précis, protect et inprotect. Et en fin de compte, dès que ces gens-là veulent utiliser Storer des secrets, stocker des cookies, les chiffrer, peu importe, ils utilisent la DPAPI. Mais la DPAPI, on va rendre compte de Windows, on va rendre compte de ce qui se passe, c'est qu'on peut l'utiliser si on est un utilisateur, en fait, bah forcément qu'on a accès à son cookie dans ses browsers, il faut qu'on puisse l'utiliser. Donc, on va rendre compte de ce qui se passe, c'est que dès qu'on a accès à un device, si on a le compte de l'utilisateur, par exemple, on fait un phishing, on détonne un payload, on est sur l'utilisateur ou on vole un PC, et on a une session qui est ouverte où on a le mot de passe de l'utilisateur, eh bien, on va pouvoir directement aller lire, ou si on a admin, hein, aussi, on va pouvoir aller lire directement les clés des PAPI et déchiffrer, en fait, les secrets, donc déchiffrer bah, les cookies de session, les access tokens et autres. Et ça, c'est intéressant parce que pour un cookie de session, par exemple, on va bypass le MFA. Et pour un attaquant, c'est super valable, enfin, c'est vraiment une bonne valeur parce que finalement, on utilise ce qu'on appelle une technique qui s'appelle passe de cookie, où on va tout simplement voler le cookie utilisateur, utiliser la DPAP Windows pour le déchiffrer, on le récupère, on le met dans notre navigateur et on est authentifié. Donc en fin de compte, aujourd'hui, oui, il y a du MFA, mais ça dépend en fin de compte où on est. Tu vois. Si on envoie un email à l'utilisateur avec un payload, qu'on arrive à le faire exécuter, qu'il exécute le payload, qu'on est l'utilisateur, moi, en règle générale, le premier truc que je vais regarder, c'est tous ces folders-là. C'est me dire, je vais aller récupérer ces cookies, je vais aller déchiffrer ces cookies, je vais aller récupérer. Mon objectif, c'est vraiment bypass son MFA, parce que ça va me bloquer à un moment donné, quoi. Et une fois qu'on rejoue le cookie en fin de compte via du pass de cookie dans le navigateur, bah, on est authentifié en tant qu'utilisateur sans avoir besoin de MFA ni de mot de passe. Donc, c'est une des techniques aussi d'attaque. Bon, forcément, ça nécessite d'exploiter un device, d'avoir accès physique à un device ou d'avoir un shell sur un device, c'est différent. Mais c'est une des possibilités. Et puis, la dernière, j'allais dire un peu moins connue, la sixième, mais enfin, moins connue. Je dirais moins publicisée ou dont on parle moins, sauf depuis quelques semaines, c'est la supply chain attack, ou la, ils appellent ça dans le Mitre attack, le trusted relationship. C'est le fait, en fin de compte, d'utiliser une organisation qui a potentiellement des accès dans une autre organisation. Donc, par exemple, on travaille avec un prestataire qui gère certaines applications dans AWS. Bah, on a des liens qu'on appelle cross-account au travers les comptes AWS qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir donner des accès, des permissions IAM, en fin de compte, à cette organisation qui est externe. Donc, elle va gérer. Et potentiellement, les droits qu'on lui a donnés sont beaucoup trop élevés. Potentiellement, il y a des relations de privilège qui sont possibles. Potentiellement, on a mal fait les choses. Et on s'expose, du coup, à vraiment une supply chain attack. Ou alors, potentiellement, on s'appelle Microsoft et on a des clés MSA. C'est aussi une supply chain attack, mais à plus haut niveau, en partant de la racine. Mais c'est réellement ce qui s'est passé un petit peu avec la dernière attaque sur Azure.
Ouais, bon, on parle tout le volet M365 parce que c'est ça que les gens ont connu depuis les trois dernières années puis qu'on a déployé de façon, des fois, peut-être un peu trop rapidement. Et de facto, c'est très ouvert. Teams, entre autres, est l'exemple de gateway rug, là, si on veut, ce genre de choses-là. Ça permet toute la création d'utilisateurs externes de façon semi-automatique, automatique, avec des privilèges d'accès, avec un paquet d'affaires comme ça. Et je suis prêt à parier que la plupart des organisations se statuent depuis les trois dernières années, si on calcule juste la zone du confinement. Là, depuis le confinement en mars 2020, on doit avoir probablement un nombre infini d'utilisateurs externes qui ne contrôlent pas, qui ne savent probablement même pas qu'ils sont là, puis qui doivent soit dormir depuis des mois, c'est pas des années, à rien faire, qui sont juste prêts à être utilisés pour réussir à faire des éléments comme ça. Parce que ça va donner accès à des SharePoint, à des OneDrive, à des Teams, à des informations, et ainsi de suite. Là.
Par exemple, nous, l'exemple qu'on avait eu, souvent dans Azure, on a les user guests, bah, par exemple, qui sont beaucoup trop ouverts parfois, ou qu'on a les user guests qui, par exemple, par défaut, dans Azure, peuvent lire tout ton Azure Active Directory, tes descriptions d'utilisateurs, tes descriptions de groupe. Mais en fait, par exemple, si tu as de la synchronisation Active Directory, en fin de compte, il peut lire la même chose qu'un domain user pourrait lire, en fin de compte, quasiment, quoi. Il peut lire tes groupes membership, qui est dans quel groupe, quels sont les droits, c'est quoi la description de l'utilisateur, et ainsi de suite. C'est quand même assez puissant, quand même. Et puis, te parler de Teams, justement, il y a le tool, là, Team Fisher, justement, qui est assez intéressant là-dessus, qui permet, en fin de compte, d'utiliser une fonctionnalité qui est l'envoi de messages sur Teams par des externes, en fait, par des utilisateurs qui sont externes à l'organisation. Et par défaut, il y a plein d'entreprises qui ne bloquent pas, en fin de compte, cette fonctionnalité et qui permettent finalement tout simplement à n'importe quel utilisateur externe d'envoyer des Teams. On parle de Teams. Quand on parle de Teams, c'est quand même beaucoup plus, on va dire, intime, quoi. On arrive, là, on parle en direct avec la personne. On peut même, je sais pas, il faudrait que je regarde, mais je pense qu'on voit même s'il l'a lu et autres. On est vraiment en interaction directe avec l'utilisateur pour faire du phishing, c'est vachement intéressant. Donc ça, si tu bloques pas aussi la communication de l'externe qui arrive, si tu bloques pas et tu resteras pas tes guests correctement, tu t'exposes en effet, oui, à des soucis potentiels ou à du phishing bien facilité, on va dire. La dernière étape, un petit peu dont on va parler, c'est un peu les limitations, parce que on a parlé des possibilités, mais il y a aussi quand même beaucoup de limitations. Je pense qu'il faut être réaliste aussi. Le cloud est quand même relativement, on dira, sécuritaire. La chose qui serait le moins sécuritaire, éventuellement, ce serait les modèles IAM, ou plutôt leur compréhension, hein, parce que c'est pas vraiment les modèles IAM qui sont non sécuritaires, ils sont sécuritaires par défaut, parce qu'ils permettent de faire vraiment du least privilège, ils permettent d'appliquer le principe du moindre privilège à la perfection. Par contre, il faut savoir comment ils fonctionnent, il faut comprendre leur fonctionnement, il faut savoir les utiliser, il faut les comprendre en fonction du cloud provider. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles IAM, si on prend du Azure, du AWS ou du GCP, sont différents. Les permissions sont pas gérées sont gérées différemment, les rôles sont gérés différemment, les spécificités, les petites choses sont gérées différemment. Dans Azure, on a du Managed Identity, dans GCP, on a du Service Account, dans AWS, on a du Assume Role. Il y a plein de choses qui sont spécifiques aussi à chaque cloud provider qui vont créer des chemins potentiels d'attaque ou d'élévation de privilèges via les modèles IAM. Ça, c'est très intéressant, c'est très important. Par exemple, dans Azure, on a les permissions IAM Azure AD, mais on a aussi tout ce qui est permission de Azure Resource Manager. Donc Azure RM, on a des permissions, on peut très bien être Global Admin dans Azure AD, mais n'avoir aucun droit sur une machine virtuelle. Et ça, il faut le comprendre. Et très souvent, les gens ne comprennent pas. Du coup, ils vont donner trop de droits ou pas assez. Quand c'est pas assez, c'est bien. Mais en général, on veut que ça fonctionne, donc ils vont donner trop de droits. Hein. Et c'est vraiment ça, ce qu'on va se dire. On a du Azure Active Directory, qui est l'identité, en fait. Et après, on a du Azure Ressources, qui est la virtual machine, le stockage, la fonction. Et à chaque fois, on a un niveau de droit différent et on a des fonctionnements de droit différents. Il y en a un, c'est du resource-based, il y en a un, ça va être du role-based, il y en a un... Et après, si on prend Azure, hein, parce qu'il faut quand même montrer à quel point c'est compliqué, moi, je trouve, on a encore d'autres permissions qui sont, par exemple, si on prend le Microsoft Graph API, on a en plus de ça des permissions liées au Microsoft Graph API. Par exemple, dans Azure AD, quand on crée une application, une enterprise application, on lui fournit en règle générale un service principal qui est en fait une identité qu'elle peut utiliser en fait pour fonctionner l'application. Et à ce service principal là, on lui donne à lui des permissions via une API, c'est de l'access token, c'est du OAuth, et on lui donne en fin de compte souvent on prend l'exemple du Microsoft Graph API. Et via ces permissions là, le service principal, par exemple, qui finalement joue entre guillemets en tant qu'application, mais le service principal va pouvoir effectuer des actions sur les emails utilisateurs, sur les OneDrive, sur les SharePoint et ainsi de suite. Et en fonction de ce que donne par exemple l'administrateur, le service principal de cette application-là aura plus ou moins de droits. Et ça, c'est des chemins qui sont encore très 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 inconnus. On a notamment les gars de SpectreOps là, qui travaillent pas mal là-dessus, sur toute la recherche sur Azure AD, Enterprise Application, ensuite Service Principal, puis Microsoft Graph API, et comment abuser en fin de compte ces permissions Microsoft Graph API. Mais il y a beaucoup d'autres API Microsoft, il n'y a pas que la Microsoft Graph API. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très mal documenté. C'est-à-dire qu'on n'a pas de connaissances ou très très peu de moyens, par exemple, d'aller se dire très bien. L'utilisateur, là, par exemple, il est owner dans Azure de l'application. L'application, elle a un service principal. Le service principal, il a lui-même des droits Graph API qui peut lire tous les emails. Donc, techniquement, ça veut dire quoi? Que l'utilisateur qui est owner de l'application, il peut lire tous les emails s'il a personnifié tout le monde sur le chemin. Et en fait, ces chemins d'attaque-là sont totalement rendus aujourd'hui dans Azure opaques, en fait. Et c'est très, 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 très compliqué. Il faut vraiment le faire à la main, un par un, d'aller énumérer toutes ces choses-là. On a quelques scripts PowerShell qui sortent ici et là pour aller essayer d'automatiser ça, mais c'est très compliqué encore. Donc là, on a un gros niveau d'abstraction, finalement, c'est vraiment ça, c'est d'abstraction vis-à-vis de la gestion des droits. Et là, si on parle d'Azure, on n'a parlé que d'Azure AD. C'est-à-dire qu'après, il faut repenser après qu'il y a à droite Azure RM qui gère toutes les ressources, stockage et autres. Donc, en limitation, je dirais ça aussi quand même, un peu l'obscurité. C'est tellement obscur que ça va créer quand même des problèmes, des limitations. Maintenant, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, quelqu'un qui est motivé, va vite comprendre qu'il y a un souci. Là où je me parle de limitations dans les modèles IAM, c'est que, par exemple, si on prend AWS, qui au niveau IAM, c'est mon avis après personnel, attention, pour moi est le plus fermé by design, parce que dans AWS, quand on crée un user, si on lui donne aucune permission IAM, on lui donne aucun rôle, il est dans aucun groupe, il ne peut rien faire. Il ne pourra pas lister l'utilisateur, il ne pourra strictement rien faire, zéro. C'est aussi le modèle le plus simple, je trouve, AWS à gérer, parce que AWS, ce sont des policies, on appelle, une policy, finalement, c'est un set de permissions. On va dire, par exemple, dans la policy, on va créer une policy read information, par exemple, et dans la policy read information, on va lui mettre les permissions list user, list virtual machine, list peu importe. Et il pourra juste lire et lister, pas plus. Donc on peut vraiment avoir quelque chose de granulaire et d'assez compréhensible, parce que on va pouvoir aller sur chaque utilisateur, en fait, dans AWS par exemple, et voir sa policy. Assez simple à comprendre, assez simple à prendre en main, mais c'est toujours pareil, pour un attaquant, on compromet un user, si on n'a pas de permission IAM, on ne pourra rien faire dans AWS. Là où dans Azure, on peut n'avoir aucun rôle, on peut n'avoir aucun groupe, on pourra tout de même lire dans Azure AD beaucoup d'informations, les users, les groupes et ainsi de suite. Sauf si ça a été bloqué, mais par défaut, ce n'est pas bloqué. GCP, c'est un peu c'est encore différent. Et c'est aussi un problème. C'est qu'on a trois modèles. Là, on se rend compte que les trois sont différents. Les trois gèrent, mais réellement, de manière très, très, très différente. Et ça, là, l'IAM, les permissions, les modèles, comment c'est géré, comment ça fonctionne, pour moi, c'est le cœur des environnements en cloud. C'est le cœur qu'il faut comprendre pour pouvoir sécuriser un environnement en cloud. Et aujourd'hui, malheureusement, honnêtement, il y a peu de gens qui ont cette capacité de prendre en considération tous ces éléments et de se dire « Ah, bah tiens, j'ai un environnement multi-cloud en plus, par exemple, j'ai du GCP, du Azure, du AWS, j'arrive à comprendre toutes les limites, toutes les possibilités des modèles de permission. » C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça bouge beaucoup, je veux dire, toutes les semaines, il y a quasiment des nouvelles features qui sortent, des nouvelles choses. C'est très compliqué à suivre. Dans GCP, du coup, c'est encore différent. Dans GCP, là, c'est un peu différent. On a des rôles qu'on peut appliquer, on a différents rôles, on a ce qu'on appelle des rôles primitifs, c'est viewer, éditeur et owner, qui sont pas utilisés, qui sont pas recommandés à utiliser, qui sont trop larges. Mais ce qu'on appelle dans GCP, on a des rôles, par exemple compute admin. Et comme son nom décrit, il est admin de tout ce qui est compute, des instances en fin de compte, des machines virtuelles. Et quand on prend le rôle en fin de compte, on peut voir qu'il a une policy comme dans AWS, en fait, avec des permissions, un set de permissions. Donc dans GCP, on a des rôles avec des sets de permissions. Mais ce qui est très important et très compliqué dans GCP, c'est qu'on dit par exemple, OK, cet utilisateur-là, on lui donne le rôle compute admin. Très bien. Je suis compute admin, mais sur quel compute? Et bien ça, je ne sais pas, par exemple. Alors, je vais être par défaut sur toutes les machines, les VM. Mais si demain, je crée un custom rôle dans GCP, par exemple, administrateur du stockage, pour tout ce qui est cloud storage, GCP, je crée ce rôle-là avec des droits. Je ne sais pas sur quelles ressources. Donc, en fin de compte, il faut après que j'aille de ressource en ressource dans GCP, vérifier sur telle ressource, sur tel stockage, quelles sont les permissions de chaque stockage. Et c'est que comme ça dans GCP que je peux l'avoir. Donc, il faut que je puisse lister toutes les ressources. Et quand je liste toutes les ressources, je sais par exemple, cette ressource-là, regarde, elle autorise, en fait, sur GCP, c'est que du autorise, il n'y a pas de deny. Elle autorise tel custom role, par exemple, à manager, par exemple, son stockage. Et en ce cas-là, je fais le lien, je me dis, tel user, il a tel custom role. Mais si je prends un user dans GCP, je ne peux pas savoir de manière sûre, par exemple, quelle permission il a sur les ressources. Il faut que j'aille en ressource par ressource. C'est encore plus compliqué quand on ramène là-dedans des notions de dans GCP, c'est des projets, comme des comptes dans AWS, cross-project, entre les projets, entre les organisations parfois même, qui gèrent plusieurs projets. Et donc, on rajoute des niveaux de complexité. Donc ça, je dirais que c'est la limitation. C'est pour un attaquant, comme pour un défenseur, très clairement, tout ce qui est IAM, les permissions IAM, les modèles IAM, c'est des limitations, on dira. Faut les comprendre en tant que défenseur, en tant qu'attaquant aussi. Et quand on est attaquant, faut s'assurer qu'on en a assez. Et même quand on en a assez, faut s'assurer qu'on l'a au bon endroit, on va dire.
Et surtout au bon moment dans lequel on veut monter l'attaque en question. Là. Des fois, c'est un peu difficile, cette complexité-là.
C'est sûr. L'autre point dont on a parlé tout à l'heure, quand on dit du phishing, c'est tout ce qui est eau haute. C'est un peu les scopes eau haute. Ça, c'est le cas quand on fait du phishing. On peut phisher un utilisateur, mais derrière, récupérer son access token. On a récupéré l'access token, je ne sais pas moi, de Jean-Robert. C'est super. Jean-Robert, il est admin. Ouais, mais non, en fait, parce que l'access token qu'on a récupéré, c'était via un phishing device code phishing. Et en fin de compte, le scope eau haute, il est limité à certaines choses. Donc, on va pouvoir lire ses mails. Bon, c'est déjà très, très intéressant. On va pouvoir aller peut-être checker son OneDrive. Je suis même plus sûr, il faudrait que je vérifie. Et puis, c'est tout. Et finalement, on ne peut pas gérer de la machine virtuelle, par exemple, avec son device code phishing. Donc, finalement, on a des scopes eau haute qui vont aussi nous limiter en tant qu'attaquant. Et des scopes eau haute qui peuvent aussi être limités par les admins. Par exemple, dans GCP, l'exemple qu'on prend très souvent, quand on crée une machine virtuelle dans GCP, donc un compute engine, en fait, par défaut, il y a un compte de service qui est attribué, un default service account. Ce default service account, il a le rôle primitif editor dans GCP. Quand tu es editor dans GCP, j'ai listé ça là, il y a deux semaines, tu as 7150 permissions. Tu peux faire beaucoup de choses, quasiment tout. Hein. Tu peux lire tous les storage. Quand tu es editor dans GCP, tu as une permission qui s'appelle service account act as qui te permet d'impersonnifier n'importe quel service account. Donc en fait, quand tu es editor, qui est le rôle primitif dans GCP, qui est pour ça qu'il faut pas qu'on l'utilise, faut pas l'utiliser, faut le mettre de côté. En fait, les rôles primitifs dans GCP, c'est les rôles qui ont été créés avant que le modèle IAM arrive. Ils ont créé GCP, ils ont dit on met des rôles primitifs, viewer, editor, owner, avec les permissions qui sont dedans. Et après, ils ont dit, ah, c'est un peu pourri, viens, on crée un modèle IAM avec des rôles de base, comme compute admin, comme ainsi de suite. Après, ils ont créé leur rôle. Et après, ils ont donné la possibilité de créer des custom rôles pour l'utilisateur. Mais certaines entreprises utilisent toujours le rôle éditeur. Quand t'es éditeur, t'es quasiment sûr de pouvoir devenir owner, en fin de compte, et d'élever tes privilèges via la permission, justement, service account act as. Bref, c'est un exemple. Mais si on prend l'exemple des scopes eau haute, quand tu crées un compute engine dans GCP, tu as automatiquement, en fait, un défaut de service account avec le rôle primitif editor, qui a 7100 et quelques permissions. D'ici à deux semaines, dans un an, ça se trouve, il aura 8000. Mais il faut savoir que malgré que tu aies ce rôle IAM, eh bien, le compte de service, le default service account, il a un scope eau haute restreint. C'est-à-dire que tu vas te dire, ah, regarde, ben, j'ai compromis une machine virtuelle dans GCP, elle a le service account et elle a qui a un rôle editor. Je suis editor, waouh, j'ai 7100 permissions. Oui, mais tu as un scope eau haute qui est limité, ce qui fait que vu que derrière, tu vas utiliser un access token en fin de compte, eh bien, tu vas utiliser l'access token avec les permissions qui sont permises par le scope eau haute. Et en fait, par exemple, pour un compute engine, la seule permission qui est intéressante, c'est que tu peux faire un storage read all, c'est-à-dire que tu peux lire tous les storage, tous les S3 buckets un peu, hein, qui sont sur le même projet que toi. C'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que tu comprends bien un compute engine, une machine virtuelle, imaginons qu'il y ait des stockages avec d'informations sensibles, ou des codes de cloud function, tu pourras les lire. Bon, c'est quand même intéressant. Mais, tu vois, c'est là que la limitation rentre en jeu, au niveau du scope haute, c'est que t'as beau avoir le rôle primitif éditeur sur service account, t'as quand même derrière un scope haute qui va te limiter. Pareil pour le phishing, on en parlait tout à l'heure. C'est intéressant. On parlait de device code phishing aussi. Ouais.
Oui. Non, je faisais juste corroborer.
On parlait de device code phishing tout à l'heure, mais c'est intéressant de mentionner aussi que le device code phishing, une des limitations qui est bypassable un petit peu, c'est que quand tu génères un device code phishing pour l'envoyer ce device code à l'utilisateur, le device code est valable 15 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 15 minutes, quand l'API Google, enfin l'API Azure par exemple, a pas reçu de réponse en fin de compte, elle va fermer en fin de compte. C'est comme si tu faisais time out en fait. Elle va time out. Donc, tu as quand même un 15 minutes pour utiliser. Mais il y a des techniques qui permettent de justement, avec de l'Ajax, à la volée, en fait, quand l'utilisateur clique sur ton lien de phishing et quand il accède à ta page, là, tu génères ton code et du coup, il le rentre et ainsi de suite. et tu l'affiches. Mais c'est quand même des limitations à prendre en compte qui est importante. Et puis, bah, enfin, moi, je dirais aussi que dans Azure, par exemple, le Conditional Access Policy, ça met en place des bonnes restrictions. C'est vraiment se dire, on met des conditions à l'accès des utilisateurs. Par exemple, ils peuvent se loguer qu'à partir d'une seule IP précise ou d'un pays, par exemple. Ils peuvent, ce que j'ai vu qui était bien restrictif, par exemple, c'était de se dire, ils peuvent se loguer uniquement depuis un PC qui est join ou qui est un managed device dans Azure, avec du MFA, et depuis, par exemple, le Canada. Bah, c'est vraiment bon, parce que ça veut dire que même si tu arrives à récupérer un identifiant, un credential, tu arrives à récupérer le MFA, tu pourras pas te connecter. Parce que tu n'auras pas de join ou managed device dans Azure. Donc, tu seras bloqué. Donc ça, c'est des bonnes choses aussi qui sont applicables via les Conditional Access Policy dans Azure, qui sont des bonnes limitations, honnêtement. Tu peux avoir le cas aussi pour un attaquant du fait qu'il n'y a pas de ressources externes qui sont exposées. Ça nous arrive souvent. On fait des tests et les utilisateurs ont que du Azure AD. Vraiment, ils ont de l'identité, des applications gérées dans Azure AD, mais ils n'ont pas de stockage, ils n'ont pas de VM. Si tu n'as rien d'exposé en externe, tu réduis énormément ton scope d'exploitation. Tu réduis énormément la possibilité d'exploiter un composant, par exemple, comme on a vu dans la technique numéro 1. Ensuite, bah, évidemment, si tu as un cloud storage, si tu as un stockage cloud, S3 bucket, et ainsi de suite, qui est correctement restreint, bon, bah, c'est bien hein, aussi, hein, c'est toujours bien. Et puis ensuite, très important, dernière chose, bon, évidemment, mettre du MFA, une bonne limite, de préférence du MFA physique, ou alors du MFA type, on appelle ça, tu sais, number matching, par exemple, dans Azure, là, où tu dois matcher le numéro et tu as la géolocalisation, c'est quand même pas mal. Privilégier un MFA physique, évidemment, qu'un MFA SMS ou un push notification. Beaucoup d'attaques, là. Quand on a du Red Team, nous, et qu'on a du SMS ou le push notification, c'est quand même beaucoup plus simple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les utilisateurs, par définition, n'auront pas de MFA. On aura forcément soit des VIP qui ne voudront pas de MFA, soit des comptes un peu brise-glace qu'on appelle, qui n'auront pas de MFA. Il faut qu'on puisse, au cas où il y a un souci avec le MFA, se connecter à Azure. Bon, en général, il y aura des grands mots de passe très forts, le compte sera presque jamais utilisé, mais il y a quand même des choses parfois qui font en sorte qu'on est on ne peut pas mettre de MFA à des comptes. Les comptes de service aussi, très souvent, par exemple, dans Azure, n'ont pas forcément de MFA. Donc, si on arrive à trouver des comptes de service dans Azure, on va potentiellement pouvoir l'utiliser. Surtout quand on fait de la synchronisation, par exemple, avec du on-premise. On récupère les comptes de service, par exemple, et de la synchronisation, ils tombent dans Azure AD. Bon, après, les comptes de service sont censés avoir des mots de passe longs et robustes, mais je dis bien censé. Ça arrive, ce n'est pas le cas. Et enfin, dernière limitation, je dirais, c'est de vraiment d'appliquer le principe du moindre privilège, surtout au niveau des permissions IAM. C'est vraiment possible d'avoir quelque chose de vraiment fine-grained, vraiment parfait au niveau des permissions, le moindre privilège, et de faire des choses vraiment chiadées. Faut-il toujours être en mesure de comprendre le modèle de permission et la manière dont ça fonctionne?
Oui, c'est très complexe. Parce que ça, c'est plus difficile. Dans le fond, on revient toujours à l'identité. C'est un peu ça l'accès initial. Ouais. Très intéressant, très complet, très... mettons, il va y avoir des gens qui vont bien du travail, je pense, après avoir écouté ça, pour justement aller vérifier qu'ils n'ont pas, pas de soucis. Je te remercie énormément. Toujours très intéressant, très enrichissant.
Super. Merci à toi.